Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous sur Radio Présence à l'écoute de ce 166e numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les vacances d'automne sont terminées, les feuilles mortes se ramassent à l'appel, mais les concerts fleurissent de nouveau un peu partout. Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, après une petite accalmie, l'actualité musicale reprend de plus belle et va être foisonnante jusqu'à la fin du mois. C'est en effet traditionnellement une période très dense que celle qui s'ouvre maintenant, et ce dans tous les genres. Pour vous présenter l'actualité passée, présente et future, j'ai la chance de pouvoir compter encore sur Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi sommes très heureux de recevoir aujourd'hui deux invités d'honneur, Claude Scavazza et Jan Willem Janssen, respectivement président et directeur artistique des Arts Renaissants. Arts Renaissants dont la saison 21-22 commence la semaine prochaine avec un premier concert mardi 16 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines, donné par l'orchestre de chambre Occitania et le jeune pianiste Constant Després. Cinq autres vont suivre jusqu'en avril prochain et nous allons tous vous les présenter en seconde partie d'émission. Pour l'instant, place à notre rubrique Retour arrière, consacrée à l'actualité des derniers jours. C'est parti.
Mélomanie. Retour arrière.
Et nous allons revenir pour commencer sur le dernier concert en date de l'Orchestre National du Capitole, samedi à la Lograin. Le jeune chef allemand Thomas Gugeis dirigeait l'ensemble symphonique toulousain pour la troisième fois à cette occasion. Il y avait au programme « Ma mère loi » de Maurice Ravel dans sa version ballet, assez rarement jouée en concert, et le « Chant de la terre » de Gustav Mahler, peu donné lui aussi en tout cas à Toulouse. Alors Serge, quelles ont été vos impressions et vos émotions durant cette soirée ?
Eh bien, elles ont été grandes, mes émotions. Alors d'abord, je voudrais quand même préciser, si Ravel et Mahler pratiquent des styles complètement différents, ces deux œuvres ont quand même en commun la période de composition. À deux ans près, elles ont été composées au début du XXe siècle et elles s'inspirent toutes les deux de poésie. La première des contes de Perrault et d'autres, et la deuxième d'un cycle de poésie chinoise, la flûte chinoise d'ailleurs, traduite en allemand. Donc c'était l'intérêt. Et alors, comme vous l'avez précisé, l'intérêt d'écouter Ma mère loi dans sa version enfin complète de ballet, puisque c'est la troisième version quand même qu'a écrit Ravel. Oui, oui. La première c'était piano 80, puis ensuite la suite qui était déduite des cinq pièces des pièces pour piano, qui était exactement leur orchestration, et puis il l'a agrandi au ballet avec un prélude et des interludes entre chaque tableau et un tableau supplémentaire qui était la danse du rouet. Et moi j'étais très content d'écouter ce tableau. Je dois avouer pour la première fois. Donc,
en concert, je n'avais jamais entendu non plus.
Moi non plus. Hein. Donc voilà, Danse du Rouet, un très beau tableau, tout vibrant, hein, qui évoque le rouet qui tourne, effectivement.
Alors il y a une chose aussi, c'est que Ravel a changé l'ordre des tableaux
exactement.
Dans la version ballet. Hein. Ce sont
exactement.
Les mêmes, à part le rouet, effectivement.
Oui, ce sont les mêmes, mais dans un ordre différent. Ainsi, l'aidronette impératif des pagodes, c'est ce qui précède le final, qui est le jardin féerique que l'on connaît.
Alors ça, l'apothéose, elle y est bien.
Ah oui,
heureusement, parce
toujours,
que c'est une merveille.
Donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans la manière dont ça a été joué, c'est cette espèce de bruissement d'ailes, on avait l'impression, de chants d'oiseaux, et avec évidemment l'excellence des pupitres de bois de l'orchestre. On le dit chaque fois, mais vraiment, la flûte, le hautbois, les bassons.
Très important dans cette œuvre.
Oh là là, vraiment, très important. Donc, moi, j'ai trouvé ça très poétique, très beau, et en particulier le crescendo final, cette graduation que le chef a su retenir un moment pour que ça s'épanouisse enfin et qui est
l'apothéose.
Une apothéose éclatante, donc un très beau moment que ce ballet enfin de Ma mère loi. Donc d'après les contes de Ma mère loi de Perrault et d'autres. Hein.
Alors on avait souvent entendu les contes de Ma mère loi de Ravel. Par le Capitole à la Lorraine,
oui,
mais là, cette
fait.
Fois-ci, dans cette version ballet, effectivement, ça fera date, bien sûr.
Ah, oui.
Et le Chant de la Terre, alors moi, je ne l'avais jamais entendu en concert, personnellement.
Ah, si, moi, première. Je l'avais déjà entendu, oui, il y a bien des années. Mais bon, c'est une œuvre extraordinaire. D'abord, là, c'est l'œuvre d'une fin de vie, hein, puisque Mahler l'avait composé. Il avait eu l'intention de lui donner le numéro 9 comme symphonie. Il dit, c'est symphonie avec voix de ténor, d'alto ou de baryton. Et tout simplement parce qu'il voulait contourner la malédiction des 9e symphonies, puisque Beethoven est mort après la 9e, Schubert est mort après la 9e, Dvorak, Bruckner, tous ces gens-là n'ont pas pu aller au-delà de la 9e symphonie. Et donc, mais lui, il y est allé, mais la 10e n'a eu qu'un mouvement complet. Ouais. Bon, voilà. Donc, la malédiction, c'est poursuivi.
En chant de la terre, effectivement, c'est une heure. Hein. C'est vraiment une heure, colossale. Hein.
Une heure extraordinaire. Et alors, avec 6 leaders, dont le dernier dure autant que les 5 précédents. C'est tout de même incroyable. Et là, on avait vraiment deux grands chanteurs, j'ai trouvé, avec Tania Ariane Baumgartner, qu'on avait déjà vue dans Le Château de Barbe Bleue de Bartok. Elle chantait le rôle de Judith, donc. Et Attilio Glaser, le ténor allemand, qui, lui, venait pour la première fois, je crois.
Et donc, je n'ai jamais entendu, moi, pour ma part.
Non,
mais bon,
non, mais il n'est jamais venu avant. Je me suis renseigné, il n'est jamais venu avant.
Attilio, donc, c'est bien allemand. Il s'appelle Attilio, mais c'est bien allemand.
Il est bien allemand. Et tous les deux sont allemands.
Tous les deux.
Et c'est vraiment formidable, hein,
oui.
Parce que leur diction était extraordinaire. À tous les deux, hein. On pouvait suivre absolument tout ce qui est dans ces poèmes chinois, traduit quand même par Hans Bethke, disons-le, en allemand, puisque en chinois, ça aurait une toute autre allure. Donc... moi, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré, avec notamment ce premier lead de désespoir. Et vraiment, le ténor se projetait à fond en sa voix. C'était vraiment très, très beau. Mais je dois dire que ce qui m'a le plus ému, c'est le final, évidemment.
Oui.
Abschied, l'adieu, l'adieu au monde, l'adieu à la nature, l'adieu à l'amitié. La mezzo-soprano qui chante ça, donc Tania Ariane Baumgartner, c'était...
Là, elle a été splendide,
extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Parce que c'était pudique, elle n'en rajoutait pas, il n'y avait pas de pathos dans ce qu'elle chantait, mais c'était d'une beauté, d'une pureté, jusqu'au dernier mot, Evi, c'est-à-dire éternellement. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer comme moi... Le temps de silence
oui,
qui a suivi ça.
Oui, il y a un long silence.
La salle était...
Qui a entretenu Gougaïs aussi,
il
a laissé son bras.
En laissant le bras levé, oui. Et donc, mais après ça, bon, la musique disparaît petit à petit, donc on ne pouvait pas hurler bravo. Donc il a fallu attendre un long moment, mais vraiment un long moment, avant que les applaudissements...
Alors, je sais que c'est un lieu commun, mais là on peut dire que le silence après la musique, c'est encore la musique. Là. Ça en fait partie.
Oui, c'est Sacha Guitry disait ça à propos de Mozart, mais on peut tout aussi l'attribuer...
On peut dire ça de tous les grands compositeurs, de toutes les grandes œuvres, en tout cas.
Oui. Donc cet adieu final était vraiment bouleversant. Hein, donc... C'est presque à regret que la salle s'est mise à applaudir.
Oui, c'est vrai. Ouais. Une très belle soirée. Alors, on ne va pas écouter le chant de la terre, mais comme c'est toujours un plaisir d'écouter la musique de Ravel dans cette émission, et pas seulement dans cette émission, notamment sa magnifique suite Mamerlois, dont voici le premier tableau, qui se trouve être le deuxième dans la version ballet, La pavane de la Belle au bois dormant. Thank you. Pavane de la Belle au Bois Dormant, premier tableau de la suite ou deuxième tableau de la version ballet de Mamerlois de Maurice Ravel, interprété ici par l'Orchestre National du Capitole, mais sous la direction de Michel Plasson. Prochain concert de l'Orchestre du Capitole le 21 novembre à 10h45 à la Halle au Grain. Nous nous déplaçons maintenant à l'église Saint-Nicolas de Toulouse, dans le quartier Saint-Cyprien, pas très loin de Radio Présence, où le consort Apollon donnait lundi le deuxième concert de sa saison, en formation très réduite puisqu'il s'agissait d'un trio avec clavecin. Le programme était intitulé « De Venise à Paris ». Serge Clément Lanfranchi, le fondateur du consort Apollon, était venu nous en parler dans cette émission la semaine dernière. Alors, par qui était-il formé ce trio ? Il y avait Clément Lanfranchi au clavecin. Et quelles œuvres et quels compositeurs a-t-on pu y entendre ?
Alors d'abord, c'est un nouveau concept de concert par le consort Apollon. Les précédents concerts, c'était l'ensemble du consort, une quinzaine de musiciens qui jouaient. Et là, pour la première fois, ils sont trois seulement. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'appeler ces cycles de concerts les rencontres en tête à tête. Et effectivement, c'était intimiste. Dans cette église Saint-Nicolas, qui est une pure merveille.
Ah, très très belle.
Belle église avec une acoustique magnifique.
Ah, pour cette musique, c'est formidable.
Ah oui, c'était parfait. Et donc, il était accompagné, lui tenait le clavecin, il était accompagné de deux membres du consort, qui étaient d'abord Sophie Castin au violon, et une autre Sophie Castella au violoncelle.
Mais il s'entoure de Sophie.
Oui, il était entouré.
Mais il choisit bien. Hein.
Ah oui, il choisit très
bien.
Deux
excellentes musiciennes.
Excellentes, ah oui, magnifique. Et donc, ils ont donné un ensemble d'œuvres, donc à la fois des œuvres de compositeurs italiens et de compositeurs français.
D'où le titre.
Le premier, c'est relativement connu, Giuseppe Tartini, grand violoniste. Donc, et ils ont donné la sonate numéro 10 pour violon, qui est intitulée Didone Abbandonata, donc Didon abandonné, la fameuse reine de Carthage. Alors les trois, hein, puisqu'il y a le violon et le soliste, mais il y a la basse continue, c'était clavecin et violoncelle. Donc, en trois mouvements, très beau, très bien fait, et joué avec beaucoup de sensibilité et un style vraiment tout à fait adapté à l'œuvre. Hein. Ensuite, il y avait une œuvre de Domenico Gabrielli, mais avec deux L. C'est pas du tout un parent des Andrea et Giovanni Gabrielli. Donc, il est beaucoup plus tardif. Hein. Donc, et là, ils ont donné une sonate pour violoncelle en sol majeur. Sonate, là également, en trois mouvements.
Donc là, c'était clavecin et violoncelle.
Clavecin et violoncelle seulement. Il n'y avait plus le violon.
C'est la seule œuvre qui a été jouée en duo,
voilà,
en duo. Pas en trio.
Exactement. Les œuvres suivantes ont été toutes jouées en trio et appartenait au répertoire français, celui-là, avec alors une compositrice, tout de même, c'était rare un peu à l'époque, mais il y en avait quand même. Hein.
Celle-ci a été très célèbre, sans doute même la plus célèbre.
Très célèbre, Elisabeth Jacquet de la Guerre, donc qui a établi une espèce de synthèse des styles, hein, comme nous l'a expliqué très très intelligemment. Clément Lanfranchi, donc...
Oui, parce qu'il a présenté toutes les œuvres.
Et oui.
Et tous les compositeurs.
Absolument. Et donc là, c'était une espèce de enfin, c'était plus qu'une sonate en six mouvements, en quelque sorte. Donc, avec beaucoup de belles choses, avec des audaces, avec des choses tout à fait intéressantes dans la composition et dans l'interprétation. Donc, ils étaient trois, là, hein, effectivement. Clavecin, violoncelle, et donc violon, puisque... c'était une sonate pour violon en ré mineur. Ensuite, on a eu un autre compositeur qu'on connaît aussi un peu, Joseph Baudin de Boismortier, qui est vraiment un grand compositeur de cette époque. Et il est né en 1689 et mort en 1755. Donc,
contemporain de Jean-Sébastien Bach.
Tout à fait, contemporain. Pleinement. Alors là, il s'agissait d'une sonate en trio, en ré majeur, sonate en trio numéro 6, avec quatre mouvements, avec une certaine grâce, une éloquence dans le style, hein, qui est le style vraiment français, hein, complètement. Et enfin, dernière œuvre, alors là, d'un compositeur que j'avoue, je découvrais, et il s'appelle Jean-Baptiste Barrière, c'était un violoncelliste, il est très connu soi-disant des violoncellistes.
Bah, lui aussi était très connu à son époque,
oui,
et puis bah, il est tombé un peu dans l'oubli. Bon, hein.
Mais il est resté connu parmi les violoncellistes, voilà, m'a-t-on dit.
Sans doute travaille-t-on ses œuvres peut-être au conservatoire aussi. Hein. Oui. On peut l'imaginer en tout cas.
Certainement.
Un grand virtuose de son époque et qui a un peu fait le lien entre la viole de gambe et le violoncelle.
Exactement.
L'apparition du violoncelle
il
à l'époque.
Il a commencé par la viole de gambe et puis il s'est rendu compte que le violoncelle, petit à petit, grignotait un peu le répertoire de la viole. Et donc, il a adopté le violoncelle. Et là, c'est donc une sonate en trio, là aussi en ré mineur, avec des choses étonnantes. En particulier, d'abord, ça finit par une gigue. Donc,
oui, ça, c'est un peu inattendu, effectivement. Oui.
Mais surtout, j'ai trouvé qu'il y avait certaines dissonances expressives dans son écriture qu'on n'avait pas entendues auparavant hein, dans le concert de la soirée. Donc, vraiment une découverte. Enfin, pour ma part, c'était une découverte, donc tout à fait bienvenue. Et puis, ils ont été très applaudis. Et donc, ils ont rejoué le final de la sonate d'Elisabeth Jacquet de Laguerre, donc pour
boucler la boucle et puis pour
satisfaire
parce que tout le monde attendait un bis, ils n'avaient pas préparé de bis. Ils nous ont dit, on peut rejouer des mouvements que nous avons interprétés.
C'était très bien.
Et donc, ça a été Elisabeth Jacquet de Laguerre.
Voilà.
À la grande satisfaction générale, je crois.
Absolument.
Eh bien, pour illustrer ce programme de Venise à Paris donné par le consort Apollon lundi à l'église Saint-Nicolas, je vous propose justement d'écouter un extrait de la sonate pour violon numéro 1 en ré mineur d'Elisabeth Jacquet de Laguerre, dont voici le 7e et dernier mouvement, presto. Le 7e mouvement presto de la sonate pour violon numéro 1 d'Elisabeth Jacquet de Laguerre, une des œuvres du concert de Venise à Paris donné par le consort Apollon lundi à Saint-Nicolas de Toulouse. Prochain concert le 6 décembre à 20h30 au même endroit avec une nuit de Noël et des pièces de Charpentier, Torelli et Corelli. Pause rapide avant de vous présenter l'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy, Claude Scavazza et Yann Willem Janssen. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et en compagnie de nos deux invités d'honneur, Claude Scavazza et Yann Willem Janssen, président et directeur artistique des Arts Renaissants, dont la saison 21-22 commence la semaine prochaine. Je vais rappeler qu'il y a déjà eu des concerts des Arts Renaissants depuis la rentrée de septembre, mais il s'agissait en fait de reports de la saison précédente, d'événements reportés en raison de la crise sanitaire. La saison 21-22 débute bien, elle, mardi 16 novembre, avec le concert de l'orchestre de chambre Occitania, associé au jeune pianiste Constant Després. C'est à Saint-Pierre-des-Cuisines à 20h. Je vais vous laisser présenter tous les deux cette formation, ce jeune espoir du piano toulousain et le programme qu'ils vont jouer. Mais peut-être, Claude Scavazza, avant, vous pouvez peut-être nous rappeler au préalable comment vous construisez les saisons des arts renaissants et selon quels axes? Parce que ce concert l'illustre assez bien. Notamment, il y a deux axes que je sais très importants pour vous. C'est de programmer au moins une formation régionale et puis de servir un peu de tremplin à de jeunes talents.
Absolument. Finalement, la construction d'une saison, hein, on peut le dire, elle est guidée par les spécificités qui sont liées à notre vocation. Vous le rappeliez, Eric. La première, c'est le choix qu'on a fait de produire des petites formations musicales, des ensembles de musique de chambre. Donc, ça guide déjà nos choix. La deuxième, peut-être plus compliquée, hein, c'est de proposer une programmation très variée, finalement, qui permet de réunir au cours d'une seule saison, hein, avec à travers 6 concerts, vous l'avez dit, des artistes de renommée internationale, des jeunes talents. Faut se rappeler quand même que les arts renaissants ont souvent été le tremplin d'artistes qui sont devenus célèbres et qui ont fait leurs premières armes sur notre scène. Jaroussky, Patricia Petitbon, et... plus récemment Thibaut Garcia, oui. qui a commencé sur la scène des arts renaissants. Donc des jeunes talents prometteurs, donc là, c'est toute la difficulté de trouver des jeunes talents prometteurs, mais notre directeur artistique est là pour le faire. Des artistes régionaux, ça a été dit, hein, on a l'habitude de dire entre nous parmi les meilleurs, hein, évidemment. Donc,
il y en a quelques-uns dans la région.
Il y en a quand même quelques-uns. Et puis finalement, un peu, on l'a formalisé un peu plus récemment, un concert ou des ensembles qu'on appelle un peu décalés finalement par rapport à notre image. Hein. Donc ça a été par exemple le fait de produire, et on verra tout à l'heure qu'on va... On va le reproposer, enfin pas tout à l'heure, dans une saison prochaine, on reproposera par exemple le Sirba Octet, hein, qui est quand même un peu décalé par rapport à notre mission, avec sa musique Kletzemer, la musique Zigane, bon c'est quand même très très intéressant. Il y a Richard Galliano aussi, qu'on peut citer parmi ces artistes, peut-être un peu décalé par rapport à ce que sont les arts renaissants. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, la fin de la saison que nous allons annoncer avec le Quatuor Ellipsos, hein. De
saxophone, effectivement.
Considéré comme un des meilleurs quatuors de saxophone du monde actuellement.
Hein, je crois pas seulement France.
On est assez content. Voilà, quand ces deux premiers points, déjà, ça donne le cadre de travail. Et puis, le dernier est plus technique, mais finalement très important, c'est le choix des lieux. Hein, puisque, effectivement, alors, avec les contraintes d'acoustique, les contraintes de jauge, la disponibilité des salles, donc ça, c'est un point important, sachant qu'on a toujours fait ce choix de choisir des lieux patrimoniaux, hein, du centre-ville toulousain. Donc, c'est dans des églises, c'est au Temple du Salin, c'est à l'Auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines. Voilà un peu les lieux. C'est le musée des Augustins, par exemple, qui sont nos lieux d'accueil. Voilà, originellement, nos saisons étaient complètement... Oui. On peut le dire, de toute façon, faut pas espérer pouvoir... Nous ne pouvons plus espérer retourner au musée des Augustins dans le fameux Salon Rouge. Hein. Il est complètement revisité avec des sculptures qui vont être au milieu... des étoiles, donc ça empêchera toute possibilité de concert. L'église restant accessible pour nous et on ne manquera pas d'y aller. Voilà un peu notre façon de évidemment, sous l'égide de notre directeur artistique, on est 3 ou 4 à préparer cette réflexion. Nous y étions encore tout à l'heure pour préparer la prochaine.
Et oui, parce que les années, ça se prépare très longtemps à l'avance, ces saisons.
Oui, il faut
quelques mois avant. Alors justement, on va maintenant regarder de près cette programmation 21-22 et ce premier concert du 16 novembre avec l'orchestre de chambre Occitania, fondé par Bernard Soustrot, qu'on a déjà reçu dans cette émission, le célèbre trompettiste qui aussi dirige le festival Abbaye en Occitanie. Et donc, vous allez y recevoir avec cette formation Constant Després, talent très précoce du piano. Jan Willem Janssen, pourquoi ce choix d'avoir programmé donc cette formation et ce jeune pianiste pour la première fois? Alors, je crois qu'ils ont déjà joué ensemble quand même, ça ne sera pas une première pour le...
Il me semble, oui. En fait, c'est leur proposition de notre... président en face de chez moi qui connaissait l'ensemble et qui a eu donc cette proposition et c'est très heureux parce que l'ensemble est jeune, les cordes sont
alors beaucoup sont issus de d'autres formations de la région, hein. Il y a des musiciens qui jouent à l'orchestre de chambre, oui, il y a qui jouent à l'orchestre Mozart, enfin voilà, hein.
Voilà, et donc même aussi l'idée c'était donc ce jeune pianiste que je connais pas et je suis tout à fait content et honoré qu'il puisse jouer dans notre saison. Ce qui me fait réfléchir que notre région a produit quand même pas mal de pianistes.
Ah oui.
Vous allez m'aider là, mais quand je pense
Ah ben, il y a eu Bertrand Chamaillou, Laloum, Nathanaël Gouin, et puis il y en a d'autres hein, qui vont arriver. On avait eu Vincent Martinet, formidable, absolument, à Musique au Palais, où il sera encore d'ailleurs cette année à la fin du mois de novembre. Oui, effectivement, l'école de piano toulousaine, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il faut croire que le conservatoire à rayonnement régional de Toulouse quand même produit de très grands pianistes. David Frey aussi, David Frey est passé par le conservatoire à rayonnement régional, vous l'oubliez, de la génération des Chamaillou. Voilà.
Oui, oui. Et il y en a des qui vont suivre, comme Constant, il y a dans la classe Aloïs Roreik qui était de Gaillac, où je l'ai rencontré. Il a fait de l'orgue avec mon collègue à Gaillac et il voulait faire de l'orgue à Toulouse. Je l'ai conseillé avec sa maman de faire du piano. Ah non, je ne veux pas faire du piano. Je ne veux pas faire du piano. On a un clavecin à la maison. J'ai dit non. Pour un organiste, il faut faire du piano. Il n'en voulait pas. Il est rentré à Toulouse, à Pamiers aussi, parce qu'il habite à côté de Muret. Et sa vie a changé avec le piano. et donc, c'est devenu un pianiste magnifique. Il est parti à Lausanne après son prix ici à Toulouse. Là, c'était un élève de Thierry Huillet qui était très content qu'il avait entendu. Et il y a un autre petit jeune encore qui est chez Huillet qui s'appelle Jean Dardigna aussi. C'est des petits pianistes, mais avec un niveau, une passion. Il faut dire aussi que pour eux, ils travaillent. Hein. Ils travaillent des heures par jour. Et j'ai entendu tout à l'heure que le petit Constant n'est plus au lycée officiel, mais il est en CNED, donc il est en enseignement spécialisé, concentré pour qu'il puisse consacrer sa vie à la musique.
Oui, alors il a été l'élève de Véronique Grange, qui a elle-même formé beaucoup de pianistes au Conservatoire de Toulouse. Maintenant, il est l'élève de François Henry, Constant Després. Ouais. Voilà, donc on a effectivement toute cette filiation là, du piano toulousain, et vous avez cité encore d'autres noms que je découvre, dont on entendra sans doute parler dans les années qui viennent. Constant Després, qui a à peine 15 ans, hein, donc qui a été un talent très précoce, on en entend parler depuis des années. Il avait fait l'émission Prodige, je sais pas, peut-être certains l'avaient vu là, sur France Télévisions. Bon, voilà, donc ils vont jouer. Alors, quel programme vont-ils jouer avec Constant Després, l'orchestre de chambre Occitania? Alors, il y a du Saint-Saëns.
Il y a du Saint-Saëns, il y a le concerto en fa mineur de Bach, pour piano et cordes. Il y a la suite espagnole pour trompette et cordes de Albéniz. Et il termine avec la symphonie simple, le Simple Symphony de Benjamin Britten.
Voilà, un programme assez éclectique, ma foi. Il y a du baroque jusqu'au contemporain avec Britten. Eh bien, nous allons écouter maintenant l'orchestre de chambre Occitania et Bernard Soustro à la trompette dans une interprétation de la suite espagnole pour trompette et cordes d'Isaac Albéniz.
Thank you.
le début de la suite espagnole pour trompette et cordes d'Isaac Albéniz, interprété par Bernard Soustro et l'orchestre de chambre Occitania. Vous allez pouvoir entendre les mêmes et le jeune pianiste Constant Després mardi 16 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, où ils vont jouer un programme Saint-Saëns, Bach, Britten et donc Albéniz. Le deuxième concert de la saison est programmé mardi 14 décembre à 20h. À la basilique Notre-Dame de l'Adorade, et je crois que ce sera une première pour les arts renaissants. On y retrouve une nouvelle fois une formation régionale et même toulousaine, les Sacboutiers, l'ensemble de cuivres anciens de Toulouse, avec deux autres formations, Café Zimmermann et le chœur Clément Jeannequin. Quel programme vont-ils proposer ce soir-là, Yann Willem?
Alors, c'est un programme de, essentiellement de musique sacrée autour du Magnificat. Le Magnificat qui est donc le chant de Marie, et on est en période de l'Avent. C'est ainsi aussi que le père Simon d'Artigues, père curé des quatre paroisses centre-ville et dont la Dorade a bien accepté de nous recevoir. Et on est très content de pouvoir faire un premier concert dans cette basilique rénovée avec une très belle acoustique, surtout pour les voix et pour la musique sacrée. Donc c'est des compositions de Bieber, surtout de Schütz.
Rosenmüller,
qui était un personnage très curieux, qui était allemand à Leipzig, mais qui a dû partir pour des questions de mœurs.
Ah, déjà à l'époque.
Ah, oui, oui.
Ah, il n'était pas passé par le Conservatoire de Paris, oui, pourtant. Oui.
Mais qui était brillant, musicien, compositeur, il jouait le violon. Ah, ouais. Donc c'est un beau programme aussi avec des pièces instrumentales, il n'y a pas que du vocal, notamment la canzone sur une chanson au Nachbar Roland de Samuel Scheidt, qui est une musique magnifique.
Ouais, formidable.
Très très beau chanson, très belle composition de Scheidt. Je me rappelle très bien que j'étais étonné par Arlancourt qu'il faisait avec son ensemble de viols de gambe, et aussi c'est une des pièces régulières sur le répertoire de Hespérion XX avec Jordi Savall, dans une très belle interprétation.
Donc des magnificats et beaucoup de musique sacrée, enfin allemande de manière générale, ce sont des Allemands, donc 17e siècle. Très très beau programme proposé par les Sacboutiers, l'ensemble Café de Zimmermann et donc le chœur Clément Jeannequin le 14 décembre à 20h à la basilique Notre-Dame de la Dorade. Le concert suivant a lieu en 2022, ce sera le mardi 18 janvier à l'église Saint-Jérôme à 20h bien sûr. Vous y recevez le Banquet Céleste, la formation fondée et dirigée par le contre-ténor Damien Guillon. Il y a un seul compositeur au programme et pas le plus célèbre de tous, Philipp Heinrich Erlebach. On va d'abord présenter ce musicien, en effet fort peu connu du grand public a priori, contrairement à son illustre contemporain Jean-Sébastien Bach, sans le Erlé. Alors, ce Philipp Erlebach, c'est un contemporain de Bach
Oui.
À peu de choses près
Oui, pratiquement. Il est né six années avant Bach. Il est mort bien plus tôt, en 1714. Et il est né dans la Frise allemande, a servi un duc en Thuringe et a très peu bougé. En fait, il n'a pas voyagé.
Comme Bach lui-même, qui avait assez peu voyagé
exact,
aussi. Hein.
Ouais, exact, oui. Et ce qui est malheureux, c'est que...
Mais son œuvre a été perdue en partie, je crois, suite à un incendie.
Hein. Oui, parce que le duc pour lequel il a travaillé après son décès, il a demandé les partitions, donc la veuve a donné les partitions au duc, et il y a eu un incendie dans le château, et les partitions sont disparues. Tout ce qui reste, cependant, c'est une musique de grande, grande qualité, magnifique.
Oui, alors, je ne sais pas si on peut le comparer à un autre compositeur de l'époque. C'est très proche de Bach, ou il a vraiment quelque chose de très particulier?
Non, c'est différent, c'est un langage très spécial. Qu'on avait entendu ce compositeur par un basse qui s'appelle Victor Torres, magnifique basse d'Amérique du Sud, avec l'ensemble qui s'appelle le Stylus Fantasticus. C'était en 2001 ou 2002. Je me rappelle le concert, c'était dans la salle des illustres du Capitole. Et c'était dans le festival qui portait le nom Harmonie des Sphères.
Ah oui.
Parce que les textes sur lesquels Erlebach a composé ont beaucoup à faire avec les étoiles, avec l'univers. C'est des textes très bizarres. C'est
un peu ésotérique, peut-être.
Peut-être, oui. Et puis ça, les textes sont assez dramatiques. Hein. Quand ça vient des étoiles, souvent c'est des mauvaises, messages.
Mais ça va bien pour Banquet Céleste, hein, puisqu'il s'agit d'étoiles, ça vient du ciel. En tout cas, Damien Guillon et son banquet céleste ont l'air de beaucoup aimer ce compositeur, puisqu'ils lui ont consacré un CD. Ils ont consacré un CD dont est inspiré le programme du 18 janvier. Alors, il y a des extraits de deux recueils d'aria dessus, et je crois que le programme, c'est ça. Donc, il y a des arias extraits du recueil Harmonische Freude et il y a Musikalische Freunde, deux recueils. Alors, pour vous donner une idée de ce programme et de la musique de Philipp Heinrich Erlebach, voici l'aria Seine Not Recht Überlegen Wird, interprétée par Damien Guillon et le Banquet Céleste. Magnifique aria Seine Not Recht Überlegen Wird de Philipp Heinrich Erlebach, interprété par Damien Guillon et le Banquet Céleste, qui donne donc un programme entièrement dédié à ce compositeur mardi 18 janvier à 20h à l'église Saint-Jérôme. Nous continuons notre présentation de la saison 21-22 des Arts Renaissants avec le concert du mardi 1er février. C'est deux semaines seulement après celui du Banquet Céleste. Il a lieu lui aussi à l'église Saint-Jérôme, toujours à 20h bien sûr. Et nous y retrouvons une vieille connaissance puisque c'est le célèbre Quatuor Hagen qui est programmé ce soir-là, mais avec le clarinettiste Jörg Widmann, parce qu'il va y avoir un programme classique viennois de Quatuors à cordes auquel va parfois se joindre la clarinette. Expliquez-nous un peu ça, Jan Willem.
C'était donc une proposition depuis longtemps déjà de ce Quatuor Hagen et qu'on n'a pas pu honorer à cause du confinement et de la crise sanitaire. Et ils sont formidables quand même qu'ils ont maintenu cette proposition. Le clarinettiste est aussi compositeur. Il joue beaucoup de musique contemporaine. Un grand, grand artiste. Et donc, on est content de les avoir. Et peut-être, Serge, tu peux parler du... Tu connais bien le Mozart, le quintet.
Le quintet K580.
Quintet avec clarinette, qui est une pure merveille. Avec le concerto pour clarinette, enfin, ça fait ces deux œuvres magiques.
Instrument qui a beaucoup inspiré Mozart à un moment donné absolument, de sa vie, la clarinette. Absolument. Et donc, il y a effectivement ce quintet avec clarinette K581, si je ne me trompe pas, qui est évidemment au programme de ce concert. Il y aura d'autres morceaux avec clarinette ou c'est le seul?
Non, il y a Webern aussi.
Il y a Webern.
Webern, voilà. Oui. Et J'ai un regret, il y avait aussi une alternative avec une composition de Widmann.
Peut-être en bis, un petit morceau.
Peut-être, on peut le redemander.
On pourra le suggérer, peut-être.
Il va se suggérer tout seul, je pense. Voilà, puis alors les Hagen, on les a vus, je ne sais pas combien de fois, aux Arts Renaissants, mais... Ils étaient encore il y a 2 ans, hein, dans la saison 19-20. Oui. Voilà, donc bon, on est toujours très heureux et très honorés, évidemment, de les recevoir.
C'est un immense quatuor.
À Toulouse, hein, oui. Mondialement connu depuis longtemps.
Ils fêtent leur 40e année d'existence.
En plus, en plus. Alors, il y a eu quelques changements par rapport à la formation
comme
d'origine,
nous.
Mais assez peu. Hein.
Oui,
assez
oui,
peu.
Oui,
hein. Voilà, donc le Quatuor Hagen et Jörg Widmann, le 1er février à 20h, toujours à l'église Saint-Jérôme. Et on ne quitte pas l'église Saint-Jérôme pour l'avant-dernier concert de la saison, mardi 29 mars à 20h, bien sûr, où est annoncé l'Orchestre baroque de Venise, dirigé par Andrea Marcon, qui va accompagner la violoniste Shushan Cyranocian dans un programme de concerto pour violon de Vivaldi, Haydn et Tartini. Tartini dont nous parlions, qui est beaucoup joué en ce moment, assez curieusement, on
en
parle
effet,
souvent.
C'était un virtuose du violon. Hein,
on ne va pas s'en plaindre parce que c'est une très belle musique. Oui. Alors peut-être quelques mots sur cet ensemble baroque très célèbre en Italie, et peut-être plus encore sur cette jeune violoniste d'origine arménienne. Je ne sais pas si elle est française d'origine arménienne, elle vit en Suisse. Yann Willem, vous avez déjà eu l'occasion de l'entendre,
alors, non,
au moins
non,
au disque sans doute.
Oui, mais non, jamais en direct. C'est une proposition de Andrea Marcon, et puis lui, il sait bien choisir ses,
oui,
ses
violonistes.
Et Andrea Marcon, c'est pour la xème fois qu'il vient ici.
Oui, l'ensemble baroque de Venise, l'orchestre baroque de Venise était venu il y a quoi, 2 ans aussi, 2-3 ans, à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec Carmignola comme violoniste.
Je me rappelle de son bis, là.
Oui,
c'était très beau.
Ça avait été un bis qui avait été, comment dirais-je, éludé. non, pas de bis. Allez. Oui, ça avait laissé un souvenir à ceux qui étaient présents ce soir-là. Mais en fait, l'orchestre baroque de Venise, c'est vraiment une très grande formation, européenne. Et donc, on sera aussi très heureux d'entendre de nouveau, puis de découvrir donc, cette jeune violoniste qui est passée par le CNSM de Lyon, mais qui a grandi à Romans. Apparemment, son père, Alexandre Cyranocian, était pianiste, chef d'orchestre, et il a été directeur du Conservatoire de musique de Romans. Donc c'est là qu'elle a grandi et qu'elle a commencé la musique. Voilà, et donc il y a eu un CD de concerto de Tartini paru récemment avec l'Orchestre baroque de Venise. Et pour vous donner l'occasion d'écouter un extrait de ce CD enregistré donc, il y a peu, par Shushan Cyranocian et l'Orchestre baroque de Venise, on va écouter le premier mouvement Allegro du concerto pour violon en la majeure D96 de Giuseppe Tartini. Le premier mouvement Allegro du concerto pour violon en la majeure D96 de Giuseppe Tartini, interprété par la violoniste Shushan Cyranocian, accompagné par l'Orchestre baroque de Venise dirigé par Andrea Marcon, avec qui vous avez rendez-vous à l'église Saint-Jérôme mardi 29 mars à 20h. Pour un programme Vivaldi, Haydn, Tartini, et je corrige tout de suite une erreur que j'ai faite tout à l'heure et que m'a signalé Claude Scavazza, le Quatuor Hagen se produira non pas à l'église Saint-Jérôme, lui, mais à Saint-Pierre-des-Cuisines, le 1er février, avec Jörg Widmann, le clarinettiste, dernier concert de la saison, mardi 19 avril à 20h au Temple du Salin. Là aussi, c'est un lieu que vous affectionnez, puisque ça ne sera pas une première. Vous avez programmé une formation un peu inattendu, vous l'évoquiez tout à l'heure, puisqu'il s'agit de ce quatuor de saxophone, le jeune quatuor Ellipsos, un ensemble déjà célèbre sur la scène nationale et internationale, en tout cas dans son genre. Qu'est-ce qu'ils vont nous jouer, ces quatre talentueux jeunes musiciens, Yann Willem Janssen?
Ils vont nous jouer du Bach, du Mozart, du Breil et du Debussy. Je dis bien Breil, en fait c'est Fernand Breil.
De Cruc, né Breil.
De Cruc qui était un organiste. Et ce concert, disons, ludique et insolite, c'est comme le premier concert de la saison, c'est le dernier. Il a été initié et heureusement proposé par Claude Scavata, qui les a entendus au Festival Toulouse-Les Orgues l'année dernière, ou il y a deux ans.
Oui, oui, tout à fait. Avec Thierry Esquèche, je crois.
Hein. Avec Thierry Esquèche à l'orgue, absolument.
Qui a composé pour eux, qui a composé des œuvres, parce que lui, il compose un peu pour toutes les formations, tous les styles de formation.
Dans nos concerts qu'on appelle décalés, je crois que ça sera une très bonne façon de conclure la saison.
Oui, et puis ils font vraiment beaucoup parler d'eux depuis quelques années, le Quatuor et l'Ipsos. C'est tout jeunes musiciens, tous très jeunes. Alors Fernande de Cruc, née Breil, que vous évoquiez à l'instant, c'est intéressant parce qu'elle est née à Gaillac. Elle est de la région, née en 1896 à Gaillac, passée par le Conservatoire de Toulouse à l'époque, il y a un peu plus d'un siècle, et revenue comme enseignante ensuite au Conservatoire aussi de Toulouse entre, je crois, 1937 et 1947, il lui restait une dizaine d'années, et elle a composé, organiste au départ, elle a composé 40 pièces pour saxophone. Bon, ça peut paraître un peu étonnant, mais voilà, donc on va de nouveau une compositrice et on va l'écouter tout de suite, on va la découvrir, la musique de Fernande de Cruc. Voici un extrait de sa pavane, jouée comme il se doit par le Quatuor et l'Ipsos. La pavane de Fernande de Cruc, interprétée par le Quatuor et l'Ipsos, une pièce que vous pourrez certainement entendre lors du concert que donne ce jeune quatuor de saxophone, mardi 19 avril à 20h au Temple du Salin, en clôture de la saison 21-22 des Arts Renaissants, dont nous avons fait cette fois-ci le tour de la programmation. Vous vouliez ajouter quelque chose, Yann Houlem, sur Fernande de Cruc?
Oui, Fernande était très belle, j'ai vu sa photo d'une part. Née à Gaillac, son père était négociant, donc ça, c'est le lien avec Gaillac est tout à fait
logique
et logique.
Négociant en vin, sans doute.
Et elle a fait quelque chose que moi, habitant à Gaillac, malheureusement, je ne pourrais pas faire. Je pense que c'est pas destiné pour moi. Elle est partie. Elle était élève d'orgue de Marcel Dupré. Elle improvisait très bien. Oui. Et elle est allée aux États-Unis. Elle a fait une carrière là-bas et elle a joué l'orgue du Wanamaker's. C'est-à-dire que c'est un magasin, un complexe de magasins énorme, avec le plus grand orgue du monde. Où vous trouvez avec un cockpit, avec plein de boutons, il y a 500 jeux, et il y a 7 claviers. Bon, elle a joué, je pense que je vais rester à Gaillac et pas faire le voyage.
Voilà, donc un personnage, cette Fernande de Cruc, et on sera bien heureux de découvrir sa musique avec le Quatuor et l'Ipsos. Avant de conclure cette émission, nous souhaitions vous annoncer deux concerts qui ont lieu malheureusement le même soir, lundi prochain, 15 novembre à 20h. D'abord, Serge Chosy, celui des Sacboutiers avec la mezzo-soprano Monica Baccelli au Théâtre du Capitole. Oui. Et ils vont proposer un programme pour le moins singulier, puisqu'on y trouve deux compositeurs que tout semble opposer, Claudio Monteverdi et Luciano Berio.
Et pourtant... Et évidemment, le temps les sépare. C'est 4 siècles d'écart, hein, pratiquement entre les deux. Mais ils ont tous les deux révolutionné à leur temps, révolutionner la musique. Monteverdi, avec sa Seconda Pratica, et donc le recita cantando qu'il a voulu insuffler dans ses madrigaux, et nous entendrons 5 madrigaux chantés par la mezzo-soprano italienne Monica Baccelli, et puis donc Luciano Berio, qui au XXe siècle, s'est beaucoup référé à Monteverdi, et notamment avec la composition en 1984 de son Orfeo II. Il a composé lui aussi un Orfeo, un opéra pour voix, orchestre et bande magnétique, évidemment avec les outils de son temps, et donc qui lui aussi a révolutionné effectivement la musique. Et nous entendrons 4 des 14 pièces de Berio baptisées Sequenze. Donc il y aura la Sequenza pour trompette, la Sequenza pour clarinette, pour saxophone soprano, qui est une transcription de la Sequenza pour hautbois, et puis la fameuse Sequenza pour trombone, peut-être la plus célèbre, hein, puisque c'est celle qui rend hommage au célèbre clown suisse Grock, avec son « why », pourquoi, donc, qu'il fait prononcer par le trombone avec sa fameuse sourdine « wawa ».
Alors, donc, le même soir, à 20h, mais à Saint-Pierre-des-Cuisines, deuxième concert de la saison des Clés de Saint-Pierre, avec un programme intitulé « Schubertiade d'automne » et deux trios avec piano au programme, Serge.
Ah, deux magnifiques trios, hein. Le deuxième trio opus 100 de Franz Schubert, qui est une merveille absolue, et puis le premier trio, alors, avec piano toujours, de Brahms, mais l'opus 8, donc une œuvre de jeunesse cette fois. Donc deux œuvres magnifiques, hein, qui seront jouées par 3 des musiciens de l'Orchestre National du Capitole, évidemment, comme c'est toujours le cas dans les Clés de Saint-Pierre, avec Alexandre Dalbigo au violon, Benoît Chapeau au violoncelle, et Inessa Lecourt au piano, Inessa Lecourt qui est vraiment la claviériste de l'Orchestre National du Capitole.
Et qui était présente encore samedi dernier.
Exactement,
pour le concert pour Mannerloy.
Avec du Glockenspiel.
Oui, voilà. Mais effectivement, on l'entend très souvent. Quand vous voyez quelqu'un derrière un clavier avec les musiciens du Capitole, c'est Inessa Lecourt.
Oui.
Sachez-le. Eh bien, comme il nous reste un tout petit peu de temps, voici un extrait du trio numéro 2 opus 100 de Franz Schubert, avec son très célèbre, rendu célèbre notamment par le film Barry Lyndon, deuxième mouvement Andante con moto, interprété ici par le trio Wanderer. Le deuxième mouvement Andante con moto, fameux deuxième mouvement du trio numéro 2 opus 100 de Franz Schubert, interprété par le trio Wanderer, mais lundi prochain à 20h le 15 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines, c'est le trio formé par Alexandre Dalbigo, Benoît Chapeau et Inessa Lecourt qui va le jouer, ainsi que le trio avec piano numéro 1 de Johannes Brahms lors du deuxième concert de la saison des Clés de Saint-Pierre. Vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à vous trois d'y avoir participé, à Serge Chosy de m'avoir aidé à l'animer, et à Claude Scavazza et Jan William Janssen de nous avoir présenté la programmation de la saison 21-22 des Arts Renaissants. Premier concert la semaine prochaine, mardi 16 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec l'orchestre de chambre Occitania et le jeune pianiste Constant Després, qui vont donner un programme 500 Bach Albéniz Britten. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.art-renaissant.fr. Vous pourrez aussi trouver une présentation de tous les autres concerts de la saison. Quant au concert des Sacboutiers et de la mezzo-soprano Monica Baccelli, lundi 15 novembre à 20h au Théâtre du Capitole, avec un programme Claudio Monteverdi Luciano Berio, je vous invite à réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.théâtreducapitole.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée désormais les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de votre fidélité et excellente semaine musicale à tous.